Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Lorsqu'on prononce le nom de Johannes Kepler, on pense au savant, à celui qui a découvert les lois du mouvement des planètes, à celui qui a compris que les trajectoires célestes ne sont pas des cercles parfaits, mais des ellipses. On pense à un esprit rigoureux, profondément mathématique, presque abstrait, entièrement tourné vers l'ordre du monde. Cette image est juste, mais elle est incomplète. Car Kepler est aussi un écrivain singulier, audacieux, capable de mêler la précision scientifique à une imagination étonnamment libre. Et il existe dans son œuvre un texte qui, plus que tout autre, révèle cette dimension. Le songe. Ce texte est difficile à classer. Ce n'est ni un traité d'astronomie, ni un conte au sens habituel, ni une simple fantaisie. C'est un objet étrange, une fiction savante, une expérience de pensée racontée sous la forme d'un rêve. On a souvent voulu y voir un des premiers textes de science-fiction, ce qui n'est pas faux. Mais ce n'est pas encore suffisant car ce que Kepler cherche à faire ici n'est pas seulement imaginer un voyage vers la Lune, il cherche à modifier notre regard. Nous sommes au début du XVIIe siècle. Kepler travaille à ses grandes découvertes, il publie l'Astronomia Nova, il rompt avec des siècles de tradition. Il s'inscrit dans le sillage de Nicolas Copernic, qui avait proposé de placer le Soleil au centre du système. Mais cette idée est difficile, elle va contre les apparences, elle va contre les habitudes et contre une certaine vision du monde. Kepler sait que les idées nouvelles ne s'imposent pas seulement par des démonstrations, elles rencontrent des résistances profondes. Alors il choisit un détour, il écrit un rêve. Écoutons-le. En l'an 1608, tandis que des querelles faisaient rage entre les frères, l'empereur Rodolphe et l'archiduc Mathias, je me plongeais dans les histoires de Bohême. Une nuit, après avoir observé les étoiles et la lune, je m'étendis sur mon lit et je m'endormis profondément. Et il me sembla, dans mon sommeil, que je lisais un livre que j'avais acheté au marché. Ce début est vraiment remarquable. Nous sommes dans un rêve, et dans ce rêve, il y a un livre, et dans ce livre, une autre voix. Ce dispositif permet à Kepler de dire sans dire, de montrer sans affirmer. Cette voix est celle de Duracotus. Mon nom est Duracotus. Mon pays est l'Islande, que les anciens appelaient Thulé. À la mort récente de ma mère, je suis enfin libre de dire ce que j'ai longtemps gardé sous silence. De son vivant, ma mère me conjurait de ne rien révéler. Elle disait qu'il existe des hommes malveillants qui méprisent les arts et interprètent de travers tout ce qu'ils ne comprennent pas. Ce passage est essentiel. Il parle de sorcellerie, mais il parle aussi de science. Il parle de ce moment où une idée nouvelle est mal comprise, déformé, rejeté. Duracotus décrit ensuite sa mère. Dans mon enfance, ma mère me conduisait souvent vers les pentes de l'éclat. Là, elle cueillait des herbes qu'elle préparait selon des rites compliqués. Elle les enfermait dans des bourses de peau qu'elle vendait aux marins comme des talismans. Le décor est posé, un monde ni complètement rationnel, ni complètement magique. Kepler ne cherche pas à séparer brutalement ces registres, au contraire, il les laisse coexister. Puis survient un moment décisif. Un jour, poussé par la curiosité, j'ouvris en cachette l'une de ses bourses. Les objets qu'elle contenait se répandirent sur le sol. Ma mère, furieuse, me livra au capitaine d'un navire à la place de la bourse. Ce geste, ouvrir la bourse, est presque symbolique. C'est le geste de la curiosité et il entraîne une rupture. Duracotus quitte son monde, il est emporté. Je fus emmené loin de ma terre et confié à un homme qui m'enseigna l'observation des astres. Les nuits entières se passaient à contempler le ciel. Puis Kepler ajoute, ces exercices me charmaient profondément et m'ouvrirent la voie vers des connaissances les plus élevées. Ce passage est calme, mais il est fondamental. C'est là que se produit le basculement vers la science. On reconnaît ici l'influence de Tycho Brahe. Le récit devient autobiographique. Après plusieurs années, Duracotus revient. Et c'est là que le texte va vraiment s'ouvrir, car sa mère lui révèle quelque chose. Il existe parmi nous des esprits très sages qui fuient le tumulte des foules et recherchent le calme de nos régions. Ils conversent avec nous comme des amis. Puis elle précise, l'un d'eux, qui m'est particulièrement attaché, peut être appelé au moyen de certains caractères. Avec son aide, je suis transporté en un instant vers des régions lointaines. Il est un lieu dont il m'a souvent parlé et qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il s'appelle Lévania. Lévania, c'est la lune. À ce moment précis, le texte change de dimension. La scène suivante est nocturne, silencieuse. La mère s'éloigne, elle prononce des paroles magiques, elle accomplit des gestes, puis elle revient. Ils couvrent leur tête et c'est ici que commence réellement le voyage. Le rituel est en cours, le silence est épais, la scène est presque immobile et pourtant quelque chose se prépare. La mère a invoqué l'esprit et maintenant une voix se fait entendre. C'est une voix étrange, pas une voix humaine au sens habituel, une voix sans corps. Une voix qui explique et ce qu'elle décrit n'est pas un conte, c'est un trajet. Écoutons ce passage car c'est l'un des plus étonnants de tout le texte. Nous choisissons avec soin les hommes que nous devons transporter. Nous préférons ceux qui sont accoutumés aux fatigues, qui ont le corps solide et qui supportent aisément les secousses. Les vieillards, les hommes faibles, ceux qui ont une constitution délicate, nous les écartons. Lorsque le moment est venu, nous les saisissons et nous les emportons avec violence. Le premier choc est si rude qu'il pourrait être mortel pour celui qui n'y serait pas préparé. C'est pourquoi nous étendons leurs membres afin que la force de l'impulsion se répartisse sur tout le corps. Nous veillons à ce qu'il ne se contracte pas, car cela augmenterait le danger. Ce passage est saisissant, il n'y a ni vague poésie, ni simple imagination. Il y a une réflexion. Kepler comprend que quitter la Terre n'est pas un mouvement ordinaire. Il comprend qu'il faut une impulsion, qu'elle est violente. Il pense déjà en termes de physique. Une autre difficulté se présente aussitôt. Il n'y a pas d'air pour respirer. Nous plaçons donc sous leurs narines des éponges humides afin de leur fournir un peu de fraîcheur. Car dans ces régions, l'air fait défaut et le corps est exposé à des conditions auxquelles il n'est pas accoutumé. Ici encore, Kepler touche quelque chose de fondamental. Le vide, l'absence d'air. Il n'a pas les concepts modernes, mais il a le problème et il cherche une solution. Puis vient la question de la température. Le froid devient extrême, puis la chaleur violente. Le corps passe rapidement d'un état à l'autre, mais ces épreuves ne durent pas longtemps, car le mouvement est d'une rapidité extrême. Ce passage est incroyable, il évoque le froid du vide, la chaleur du soleil, l'alternance brutale et surtout la vitesse. Le trajet s'accomplit en un temps très court, car sans cela, aucun être humain ne pourrait le supporter. Nous sommes ici au début du XVIIe siècle. Et pourtant, Kepler décrit déjà quelque chose qui ressemble à un vol spatial. Il comprend les contraintes, puis le mouvement se termine. Lorsque la course est achevée, nous déposons les voyageurs à la surface de l'Evania. Là, ils retrouvent peu à peu leur force et s'habituent à ce nouveau monde. Le voyage s'achève, mais quelque chose commence. Jusqu'ici, tout était mouvement, tout était effort. À partir de maintenant, il s'agit de voir. Mais Kepler ne passe pas immédiatement à la description. Il laisse le lecteur s'installer. Car ce qui va suivre demande un effort mental. Changer de point de vue. Avant de décrire la Lune, Kepler a donc préparé quelque chose. Il a déplacé le corps, déplacé le regard, déplacé le lecteur. Et maintenant, il peut montrer. Mais avant cela, il faut encore entendre une chose. Celui qui parle, ce n'est pas une créature surnaturelle, c'est une voix savante, une voix qui explique. Et cette voix permet à Kepler de dire ce qu'il ne pourrait pas dire autrement. Car le contexte est dangereux, il ne faut pas l'oublier. Kepler vit dans un monde où certaines idées peuvent être mal comprises, déformées, accusées. Revenons maintenant à l'Evania. Le voyage est terminé, le corps est posé, le mouvement s'est arrêté. Le corps éprouvé retrouve peu à peu son équilibre et maintenant, pour la première fois, le regard peut se poser. Kepler ne se précipite pas, il commence par organiser ce nouveau monde, par le nommer, par le découper. L'Evania est divisée en deux grandes régions que nous appelons Subvolva et Privolva. Ces noms viennent du rapport qu'elles entretiennent avec Volva, c'est-à-dire la Terre. Dans Subvolva, la Terre est visible. Dans Privolva, elle ne l'est pas. Tout va dépendre désormais de cela. Commençons par Subvolva. Dans cette région, la Terre se tient toujours suspendue au même endroit du ciel. Elle ne se lève pas et ne se couche pas, mais demeure immobile au-dessus des habitants. Arrêtons-nous. Cette phrase est simple, mais elle est forte. Depuis la Terre, tout semble bouger. Le soleil, les étoiles, la lune. Depuis la lune, au contraire, la Terre est immobile. Le mouvement change de sens. Et Kepler insiste. Elle apparaît beaucoup plus grande que la lune ne nous apparaît. Sa lumière est plus vive et ses changements sont aisément perceptibles. La Terre devient un objet du ciel, un objet visible, un objet qu'on peut observer. Et puis vient le passage décisif. Elle change d'aspect, passant par des phases opposées aux nôtres. Lorsque la Lune est nouvelle pour nous, la Terre est pleine pour eux. Et lorsqu'elle est pleine pour nous, elle est nouvelle pour eux. Ce que Kepler montre, ce n'est pas seulement une curiosité. La Terre et la Lune sont symétriques. Ce que nous voyons depuis la Terre, un observateur sur la Lune le verrait en sens inverse. Autrement dit, la Terre est une planète. Mais Kepler ne le dit pas, il le montre. Il poursuit. Ceux qui habitent ces régions peuvent observer la Terre comme nous observons la Lune et suivre ses variations avec attention. La Terre devient observable. Elle n'est plus le lieu d'où on observe, elle devient l'objet de l'observation. Et Kepler va encore plus loin. On peut distinguer certaines parties de sa surface, notamment les différences entre les mers et les continents, car ils réfléchissent la lumière d'une manière différente. Ce passage est étonnant. Il suppose une surface différenciée, une réflexion de la lumière, une observation attentive. C'est presque une vision télescopique avant l'heure. Et puis, Kepler change de région, prix Volva. Dans la région opposée, la Terre ne se montre jamais. Les habitants y sont privés de ce spectacle et contemplent un ciel plus riche en étoiles. Elle montre que le monde n'est pas le même partout. Il n'y a pas une seule expérience du ciel. Cela dépend du lieu. Kepler s'intéresse ensuite au temps. Le jour sur Lévania est beaucoup plus long que chez nous, et la nuit également. Pendant le jour, la chaleur devient excessive. Pendant la nuit, le froid est extrême. Nous sommes ici dans un monde d'extrême. Le rythme n'est plus le même, le temps n'est plus le même, et Kepler en tire des conséquences. Les êtres qui vivent dans ces régions doivent adapter leur existence à ces conditions. Ils se retirent dans des cavernes ou dans des lieux protégés pour échapper à la violence du climat. Leur croissance est rapide, mais leur durée de vie est courte. Ces phrases ont quelque chose de poétique. Elles décrivent un monde possible, un autre monde. Mais au centre de tout cela, une idée demeure. Ce que nous voyons dépend du lieu où nous sommes. Kepler ne formule pas cela comme une loi, il le fait sentir. Depuis la Terre, nous avons l'impression que tout tourne autour de nous. Depuis la Lune, cette impression disparaît. Le mouvement n'est pas absolu, il est relatif, et cette idée qui deviendra fondamentale dans la science moderne est ici présentée sous une forme sensible. Ce n'est pas une équation, ce n'est pas une démonstration, c'est une expérience mentale. Après avoir décrit Lévania, ses régions, ses rythmes, ses habitants possibles, Kepler ne s'arrête pas au simple émerveillement, il explique. Car le songe n'est pas seulement un récit, c'est aussi un texte accompagné de notes. Et ces notes sont essentielles. Dans ces notes, Kepler lève le voile, il explique ce que signifie son récit. Écoutons-le. Ce qui est présenté ici sous la forme d'une fiction ne doit pas être rejeté pour cette raison. Il faut au contraire rechercher derrière ces images les causes naturelles qui peuvent en rendre compte. Et il dit explicitement ce que le texte faisait implicitement. Le rêve n'est pas un divertissement, c'est un outil. Kepler poursuit. Ce qui est dit des démons ne doit pas être pris à la lettre. Il s'agit d'une manière de représenter des choses qui peuvent être comprises autrement. Le démon n'est pas un démon, c'est une voix qui permet de dire ce qui ne peut pas être dit directement. Et Kepler ajoute encore « J'ai choisi cette manière de parler afin de rendre ces choses plus accessibles à ceux qui ne sont pas accoutumés à ce genre de raisonnement. » Écrire un texte peuplé de démons, de pratiques nocturnes, de voyages mystérieux n'est pas un geste innocent, c'est un geste risqué. C'est aussi un geste lucide, car Kepler sait que la frontière entre science et superstition est fragile. Il sait que ce que l'on ne comprend pas peut être condamné. Et il choisit pourtant d'écrire. Sa mère était accusée de sorcellerie, elle est arrêtée, elle est emprisonnée pendant des mois. Elle est interrogée, menacée. Kepler doit intervenir. Il écrit sa défense, il argumente, il mobilise tout son savoir, il lutte. Puis finalement, le récit revient à son point de départ. Tandis que je poursuivais cette lecture, il me sembla qu'un trouble s'élevait autour de moi, comme si plusieurs voix confuses se faisaient entendre. Le bruit devint peu à peu plus distinct, et aussitôt, je fus tiré de mon sommeil. Je m'éveillai, et je trouvai le livre encore dans mes mains. Il n'y a pas de transition, le rêve s'arrête, mais il ne disparaît pas complètement, le livre est encore là. Comme si le rêve avait débordé dans le réel, Et c'est peut-être là, au fond, que se trouve la clé du texte, car le songe n'est pas seulement un rêve, c'est un rêve qui transforme, un rêve qui modifie la manière de voir, et ce que Kepler nous laisse, ce n'est pas une conclusion, c'est une invitation à changer de point de vue. Regarder depuis ailleurs, depuis la Lune par exemple, et voir la Terre dans le ciel. Alors, ce que nous croyons évident cesse de l'être, et ce que nous croyons immobile se met à bouger. Kepler, en écrivant le songe, accomplit ce geste. Et 4 siècles plus tard, ce geste reste le nôtre. Accepter de changer de regard et peut-être, parfois, de rêver.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.